Bienvenue dans Poésie Chronique, nous sommes en direct sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios du monde. Merci de nous écouter. Nous allons aujourd'hui lire des textes de Joël Glélé, qui est un auteur béninois que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la semaine du marché de la poésie, notamment à une soirée organisée par l'espace Pandora. Donc Joël Glélé, qui est passionné par la littérature, qui écrit des poèmes avec une verve incroyable, c'est une énergie qui pousse des montagnes. Pour autant, le livre pour lequel je l'invite aujourd'hui, qui s'appelle « Procès aux lettres », parle de cette dichotomie qui peut exister pour une personne qui naît en Afrique, de s'exprimer dans une langue qui lui a été imposée, notamment par la colonisation. Et c'est cette position que la maîtrise de la langue française lui donne, qui remet en question avec une espèce de rage dans « Procès aux lettres ». Je me permets de lire ces textes, bien évidemment avec l'accord de l'auteur, parce qu'il est au Bénin, que c'est assez compliqué de gérer une émission en duplex, évidemment, auquel cas Joël aurait lu ses propres textes. Nous allons appeler Joël au Bénin d'ici une vingtaine de minutes, hein, quand j'aurai lu ces deux extraits de « Procès aux lettres » de Joël Glélé. Ils ont vu que ma langue est riche. Ils ont vu l'instrument social qu'est ma langue. Ils ont dit aux traîtres de le suivre en tant que boy. Ils l'ont nourri. Ils l'ont habillé. Ils lui ont donné des ordres pour convaincre le roi dans sa demeure. Ils ont vu nos sols. Et par la langue, ils ont produit des doutes sur nos richesses. Ils ont compris qu'en attaquant ma langue, ils pourraient tout avoir. L'école est venue pour exiger des normes contraires à la morale universelle. Je ne suis pas un outragé. Je suis un ressuscité des classes et des blessures syntaxiques qui causent en moi des taches indélébiles, des sueurs sur le frontispice de mes travaux. Je ne ferai plus aucune faute dans la langue d'autrui, diras-tu. Il parle sa langue et m'informe qu'elle sera une langue diplomatique. Pauvre de moi, j'ai accepté sans savoir que je vendais une richesse plus aisée que la terre. Apprendre à mes enfants et à mes arbres la spiritualité dans une autre langue. Je ravise. Ma langue est attaquée sur les fonds et les formes. L'aîné dira que la richesse du peuple et le retour aux sources. Et je dis que notre retour aux sources devra reprendre par ma langue. Ma langue devra-t-elle mourir? Ma langue, que deviendra-t-elle? Osé sur l'objectivité de mes savoirs, j'écris dans cette langue. Cette langue où je me trahis,
cette langue où je lance ma révolte, sans atteindre ma cible. Ma langue est dépouillée de son ésotérisme, et fanée dans les discours insidieux. Insipide volonté de nos aînés qui croisent sur leur route le rêve ensanglanté de traîtrise et des velours qui catapultent mon engagement. Je crie sur mon silex. Je trancherai la gorge de la grammaire qui crée un temps mort. La virgule de ma langue. Je pète des larmes en sanglots. Revendiquer sa culture devant le paradoxe occidental. Sourire à des « je t'aime » fanfaronnés par la musique moderne dans laquelle ma langue est délaissée. On m'accusera d'aimer Alec Peanu, Alok Pon, Alevi, Gbeze, Barasunon. On me dira que je prône des valeurs contraires aux avancées technologiques. Sur mon corps se dressent des blessures catamorphes. Des requins parcourent mon corps, me chatouillent. Je vis dans la détresse. Ma langue meurt sous le poids des civilisations plus fortes. Ma langue perd son sens dans un monde de culture où l'identité est primordiale pour émerger l'être dans sa spiritualité. Mon peuple a oublié ses fondements, ses traces qui, depuis des générations, ont contribué à une richesse rare sur le marché noir. J'ai vu des jeunes partager des chansons d'autres pays. Ils ont pris leur forfait internet pour chercher des lyrics. Et je regarde Rabislo revenu après des années de réflexion culturelle. Prenez le Afro-Chink. Ils ont refusé le partage. Dans son âme ne saigne pas seulement le fantôme d'une déesse, mais d'une culture tanguée dans les vagues. Une culture qui a oublié son gouvernail. Mon âme s'envole dans des crises d'immaturité où je voudrais changer ma voix pour m'exprimer en français. Las des cartouches qui gangrènent ma pensée, j'ai hélas refusé mettre fin à ma trahison. Je m'acharne contre les venins sans candeur, impurs et de race satanique. Vampirisme au haut niveau de la pudeur, me dire que je suis un délit féodal. Je voudrais plus être un délit anthropophage. Assommer la viande de ceux qui ont volé ma langue au détriment des leurs. Des turbulences pour crier la faiblesse d'un système où il faut bien s'exprimer en français pour être promu. Il faut bien écrire pour gagner des prix littéraires. Les écrivains africains sont depuis des astres et des lustres, les chauves de la déraille intellectuelle et la fuite des initiations linguistiques. Ils ont dit qu'Amadou Kourouma ne manipule pas bien le français. Et pourtant, l'homme amoureux d'un fanta est un modèle d'audace. Ils nous ont dit que parler notre langue est une honte. Dans les costumes d'hypocrisie siège la gadoue culturelle et méprisante des aînés.
Vous écoutez bien Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios du monde. Nous sommes en direct dans Poésie Chronique et je viens de vous lire un extrait de Procès aux lettres de Joël Glélé, qui est un auteur béninois avec qui nous converserons tout à l'heure. Et je vais vous lire maintenant un deuxième extrait de ce texte. Donc Joël Glélé, c'est un poète qui a une vraie maîtrise de la langue française, comme on a pu l'entendre et puis l'écouter, parce qu'il parle de ça dans cet écrit. Mais c'est également un poète qui écrit avec une verve, avec une énergie comme ça qu'il a, et là qui lui sert à désosser l'influence forcément négative, mais en même temps paradoxale, d'une langue qui a été imposée par la violence, puis de façon plus insidieuse par une réussite sociale qui se donne qu'à ceux qui parlent français, même dans des pays où le français a volé la langue. Voilà, j'arrête avec mes exégèses, on aura l'occasion d'en parler avec Joël tout à l'heure, et puis je vais lire ce deuxième extrait. Sous l'arbre des lettres, je me suis plongé dans un rêve de mots et de trahison de ma culture. Je me suis immergé de la langue française. Je ne suis plus le moi ancestral. Je suis devenu le complexe. Je suis devenu le moi imitateur. Sous le poids des dérives stylistiques et des dérives analytiques, je lance le plus grand procès, un procès de faille linguistique, un procès de ruse culturelle, un procès personnalisé qui ne se voue pas aux conventions traditionnelles de la justice, un procès fait sous l'arbre des lettres, un procès où la raison pleure devant une kyrielle de discipline. Je suis le français qui cale l'illettré à ne point avoir de relation psycho-intelligente avec sa famille. Déculturé par une autre langue, je défends la civilisation. Je ne me fie pas à moi-même. Si mes pères ont su que Dieu existe, qui suis-je pour nier la preuve irréfutable que nous sommes? L'air que nous respirons n'est pas un hasard. Je suis un pan de la lumière. La masse vient d'en haut, en évidence. J'avoue que le romantisme n'est pas romantique. Oui, un moi personnel qui se veut être un modèle pour la société. Toutefois, l'art séduit et je deviens baroque. Juste pour étonner. En réalité, je ne clame pas l'esthétique, mais l'obsession. De cette esthétique, la plume poétique s'arroge. Mais dites-moi, si la perfection et la rigueur peuvent faire de moi un être d'une autre dimension, il est temps que je porte le Parnasse. La réalité ne nous rend pas bigleux, mais nous élève. Je suis devenu plus réaliste que le réalisme. Bien que l'astre de la poésie ne soit pas la Pléiade, on se cache derrière les symboles pour sauter dans le symbolisme. Alors, il est temps de bâtir et de reconstruire un nouveau pont sur lequel le futur nous sera redevable. Dans ce matériel, je poétise la Renaissance et l'humanisme, une audace qui montre que je suis disposé à faire tomber des mots pesants à la recherche d'un passé qui me perturbe. En un temps de ma vie, on m'imposa des tendances que je devais étudier pour réussir. Je me suis forgé un bagage de costumes noirs et de pères noirs pour mener le deuil d'un système. En moi, il pensait tuer l'écosystème. Pour m'en sortir, j'ai employé des termes pour aborder des thèmes. J'ai exigé un procès. En moi, je veux détruire le perturbant
cet abcès.
Madame la censure, suivez ma défense sur la tendance des écoles et des mouvements. À l'entame de ma plainte, je souligne que des dents se sont serrées contre mon corps. Car il m'arrive que je n'arrive plus à réfléchir dans ma propre langue. Je me sens incapable de parler correctement ma propre langue. Je suis devenu le Yovo de ma communauté. Je suis devenu le Hakowe de ma localité. Madame la censure, honorable membre de la conscience, je suis précieux et je porte le manteau de la préciosité, l'élégance des mots qui tonnent dans la tête. Des adulés de la langue française m'en veulent à ouvrir leurs portes et leurs yeux. Alors, j'entre dans une sapologie de mots pour apprendre l'histoire. Je suis un homme à fort caractère notoire. Je ne suis pas un libertin pour entrer dans le cercle du libertinage. Je ne critique pas, raison pour laquelle je ne suis pas un critique. Lecteur divin de chaque maître de la littérature béninoise, je suis devenu très classique. Je révère l'aîné, la face contre terre. Ils m'ont enduit de l'huile du classicisme. Je suis un ouin qui suit leurs traces. Je m'inflige des lumières car, dit-on, je suis plus philosophe que je ne pense. Qui veut la régression? J'aime la progression. Ils ont tué le savoir biblique. Et quand je me plonge dans ce désuet, je sors mon rire gonflé de mélodie royale pour louer le Saint des Saints. Lui seul peut déchiffrer les mystères de la vie. Le poids du surréalisme m'exacerbe. Elle est traître, cette langue. Elle se donne des capacités d'étudier le rêve. Révèle-t-elle des mystères ou sort-elle de simples théories? Il faut être naturel pour devenir naturaliste. La vie des lettres m'a donné un savoir. Lecteur, imagine si je peux agir pour la langue française. Je peux aussi agir pour le français béninois. Je suis vautré dans la chair des savants qui ressuscitent les non-dits avec du néologisme et de la fantaisie. Je me colle au savoir culturel pour servir cet écrit plein de connaissances et de regards braqués sur ma petite personne. Tu veux que je me dévoile ? L'assistance me donne encore quelques mots pour ma raison. J'appelle à la barre la grammaire. Je suis la science. Mère de la langue française. Je construis la forme et le fond. Je suis la règle. Quiconque ne m'applique est un rejeton qui n'aura jamais de respect. Qui m'applique bien se donne plus de chances d'être meilleur. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vos enseignés rencontrent? Les enseignés ont du mal à garder les règles. J'ai formé des mots qui se ressemblent, mais qui ne se prononcent de la même manière. Il arrive parfois qu'il me faut poser des questions pour connaître un sujet et déterminer l'objet dont il est question. Je possède des fonctions. La phonétique est une maîtrise scientifique des sons du langage.
la morphologie s'occupe de la formation des mots, leur variation et leur désinence. La syntaxe s'occupe des relations entre les unités linguistiques. Dites-nous, ce travail d'apprentissage va-t-il avoir un impact sur l'enseigné ? Apprendre tout cela d'une autre langue nous cultive. En plus, il nous enrichit et permet d'envisager des études dans sa propre langue.
Voilà, nous venons d'entendre deux larges extraits de Procès aux lettres de Joël Glélé sur la musique de Grosso Gadgetto et Mézinc. Hein, c'était d'abord Mézinc, ensuite Grosso Gadgetto. Vous écoutez bien Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios du monde. Nous sommes en direct dans Poésie Chronique et nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Joël Glélé. Bonjour Joël.
Bonjour Baptiste.
Tu nous appelles donc du Bénin.
Exactement.
Du coup, il est une heure de moins. Tu fais quoi actuellement ?
Alors là, je suis devant votre émission. Je suis en train de te suivre lire Procès aux lettres.
Et du coup, ce sont des mots très forts. C'est à la fois poétique, mais ça parle quand même de quelque chose, d'une violence extrême que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas connu. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce rapport à la fois de réussite par rapport au français ? Parce que la société, malheureusement, elle est faite comme ça. Tu parles bien français, t'es bien vu, on te met à des postes clés. Et cette rupture énorme que ça crée avec les traditions, toute la culture dont tu es issu, en fait.
Tu sais, en premier lieu, je voudrais tracer très vite l'historique de la naissance de Procès aux lettres. Alors que j'écrivais l'ouvrage il y a de cela quelques années, j'étais encore au département des lettres, c'est-à-dire que j'étudiais encore au département des lettres ici au Bénin. Et un jour, un ami avec qui j'étais de la même promotion me disait « Mais Joël, dis-moi, il y a tellement, tellement de complexité dans la langue française. » Je l'ai dit ce jour-là, crois-moi, je ferai un procès aux lettres. Alors, tu sais, lorsque j'ai commencé par écrire l'ouvrage, il m'est arrivé de me revoir et de faire une introspection de moi-même, de me dire, mais cette relation-là qui existe entre la langue française et ma propre langue qui est le fongwe, qui est la première langue béninoise.
D'accord. Et du coup, au Bénin, on parle fongwe en fait. On ne parle pas du tout français.
La langue française est la langue officielle ici au Bénin.
Ah ouais, c'était.
Et donc, partout dans l'administration béninoise, c'est la langue française. Il y a plus de 36 langues au Bénin. Et la langue la plus parlée, qui est Martenel, c'est la langue fongwe.
Fongwe, ok. Tu as déjà écrit des poèmes dans cette langue ?
Exactement, comme récemment lorsque j'étais à la Bielande, à Lyon, j'avais déclamé quelques textes en fongwe.
Est-ce que là, tu accepterais d'en lire ou c'est pas le propos ?
De toute évidence, dans l'ouvrage, j'essaie de trouver rapidement un passage qui parle du fongwe. Et là, ça permettra aux éditeurs d'un peu comprendre. Laisse-moi chercher rapidement.
D'accord. Ouais, donc je reviens un peu sur ce que tu disais pour parler de cette biennale, hein. C'est là où on s'est rencontrés. Enfin, c'est beau aussi d'avoir ces ponts-là. En fait, je crois qu'on a du mal à visualiser ça. Un pays qui a pour langue officielle la langue du colonisateur. En fait.
Exactement.
Ouais. Tu sais, en France, on a l'habitude de comparer ça avec l'occupation allemande, même si elle n'a duré que 4 ans. Donc, en fait, c'est un peu comme si nous, on parlait allemand.
C'est la même chose au Bénin, ouais. Où, plus en vue, c'est que cette langue qui nous a été imposée est devenue presque aujourd'hui nos langues. Je vais te faire une confidence, c'est également une confidence à nos auditeurs. Moi, je suis prince de la plus grande famille royale du Bénin. Et il savait qu'aujourd'hui, c'est vrai que je parle très bien, je manie très bien ma langue maternelle qui est le fongwe. Mais je maîtrise encore plus le français que ma langue maternelle.
Meilleur que la mienne, chaque mot, voilà, même la personnification que tu fais de la grammaire, il y a un truc que tu maîtrises grave.
C'est ça. En temps normal, je devrais maîtriser plus ma langue. Mais je maîtrise, je parle très bien la langue française que ma propre langue. Il s'avère que ce n'était qu'en 2006, j'ai commencé par apprendre à manier un peu ma langue maternelle, à lire et à rédiger dans ma langue maternelle. Et crois-moi, ce n'était pas du tout facile. Parce que d'abord, il y a ce problème de complexité ici au Bénin où l'alphabet dans notre langue n'existait presque pas. Et il faille d'abord que les linguistes fassent ce travail. Ensuite, des tests sur nos langues n'existent presque pas. Donc, tout cela sont assez de complexité qui ne permettent pas aujourd'hui à nous jeunes de pouvoir plus parler nos langues. Cette rébellion d'un procès aux lettres est en train de dire à nos autorités, à nos aînés, qu'est-ce que devrait devenir nos langues d'ici 50 ans, d'ici 100 ans ? Qu'allait devenir la langue fongwe ?
Ben ouais.
Voilà.
J'ai reçu une personne qui est assyrienne dans l'émission. Donc les Assyriens, c'est des chrétiens d'Irak. Et il m'expliquait que c'est une langue en voie d'extinction et qu'en fait, une langue disparaît plus vite qu'une espèce. C'est-à-dire qu'une langue, si une génération ne la parle plus, elle disparaît. Alors qu'une espèce, ça met un peu plus, ça met du temps. Tu vois, ça réduit et puis ensuite ça disparaît, mais ça disparaît pas d'un coup. Une langue, ça disparaît d'un coup à partir du moment où bah, les enfants de ceux qui les parlent ne la parlent plus.
C'est ça exactement. Moi, j'attaque ce problème-là depuis un moment donné. Il y a des linguistes béninois qui font un travail excellent dans ce domaine. Il y a même un jeune Forbes africain récemment qui travaille sur les langues béninoises. Le sens de son travail s'appesantit plus sur les technologies. Et puis, il a développé une application des claviers de langue béninoise où aujourd'hui, on pourrait télécharger ce clavier-là. Tu vas sur Play Store et tu tapes Ayam Yoklounon. Tu verras des stickers en fongwe. Tu verras également le clavier des langues béninoises qui permettent aujourd'hui à tous ceux qui sont au Bénin de pouvoir écrire dans leur langue, même si ce n'est pas un travail...
Non, mais c'est génial.
Un travail qui reste à faire, mais c'est quand même un travail.
Oui, mais là, ça veut dire qu'il y a les moyens technologiques, une présence de ces langues-là, ce qui permet, à partir du moment où des gens peuvent l'utiliser, de qu'elles survivent. Donc c'est ni plus ni moins. Tu parlais de la confrontation avec les technologies. Là, tu as réussi à réunir une tradition ancestrale de ces langues avec un outil technologique quotidien.
Exactement. Et tiens, toi, tranquille. Ce travail, que ce soit moi, que ce soit le jeune auteur et le jeune inventeur qui le fait, il y a également une autre bonne nouvelle en ce qui concerne ce travail de rébellion pour nos langues. Il y a un certain nommé Dr. Alain Kakotiti qui a récemment inventé un téléphone. Ce téléphone-là parle plus de près de 50 langues africaines. Et figure-toi que la langue fongwe existe et que la langue fongwe également figure dans ce téléphone-là.
Ben, bravo. C'est effectivement un vrai travail de résistance qui permet à des langues de survivre. Et c'est ce type de gestes qui peuvent paraître anodins, parce que qu'est-ce qu'un téléphone, comme tu le dis toi-même, dans un SMS, on ne va pas écrire un roman, on ne va pas faire évoluer, écrire une œuvre littéraire. En revanche, on communique et la langue, elle survit. Du coup, il faut que je t'appelle Son Altesse ou pas? Parce que tu m'as dit que tu étais d'une famille de princes. Du coup, je dois t'appeler Son Altesse. Comment je dois t'appeler? Déjà, est-ce que j'ai le droit de te dire tu?
Oui, bien sûr. Je suis là en tant qu'auteur.
D'accord. Et quel auteur? J'aime beaucoup ton écriture. T'as peur de rien. Tu t'attaques à des sujets sans chercher à te contenir ou à te censurer. Et ça donne ta couche de mots qui parfois peuvent paraître un peu violents, mais au moins, c'est une grande sincérité et une grande force. On dit souvent que les mots sont des armes. Mais là, ce qui est sûr, c'est que tu atteins ta cible.
Je me permets de dire à mes auditeurs que ici, le travail que je fais, la particularité de mon travail, c'est faire le méli-mélo de nos langues béninoises au français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vas dans les pays comme le Sénégal ou comme la Côte d'Ivoire, qui sont des pays d'Afrique, il y a ce méli-mélo de la langue qui est réalisé. C'est-à-dire le méli-mélo entre le français et les langues du terroir. Et donc aujourd'hui, il y a le français ivoirien qui existe, il y a le français sénégalais qui existe. C'est également ce travail que moi, au Bénin, je suis en train de réaliser, où je dis, il est question du français béninois. Alors, je me permets de te lire quelques passages qui montrent combien de fois je fais ce méli-mélo de la langue-là. Je commence par dire, au fongwe, illustre langue qui fait dandiner la parole, sagesse d'une parole médium qui bénit, fongwe du sud, tu conquis le cœur. Tu fis de nous alliance de génération, de préservation de la culture. Pour toi, nos pères ont perdu la vie. Pour toi, des âmes sont parties par l'Atlantique. Nous sommes d'Adja, nous de Tado. Nous avons entré à nos terres la sagesse des incantations des vies. Panlingan, tu es l'esprit du peuple. Qui es-tu? Tu valorises le royaume par tes louanges. De par ta bouche, le mari se fait apaiser par la science des panégériques. Tu as fondé et préservé plusieurs familles. Où es-tu? As-tu disparu? Bariba, Du Nord, nous avons peuplé le pays. Nous avons transmis la parole à nos générations, versée dans la langue. Nous fîmes de nos enfants des griots. Griots, mémoire d'un peuple. Pour le Bariba, tu valoriseras chaque clan. Aujourd'hui, t'avons-nous perdu alors que tu préservais l'identité de tes enfants. Sur les lins, nous avons vu la chair couverte de peau linguistique se détacher au détriment du français. Notre langue est la valeur incommensurable qui est la source de notre mémoire. Par notre langue, nous avons été griots et panlingans. Peuple de mon pays littéraire, chantez avec moi. Laissez sa langue, c'est rejeter son devoir. Des expressions de notre culture ne nous amputent pas. Nous menons et faisons des pas d'emprunt d'un savoir indigène et endogène, riche en Grèce. Que je dise non-tier, que je dise non-vie, me touche et me pénètre. Je fonctionne sur des rimes et des rythmes pour transiger sur les faits. La langue est savoir. Moi, poète, sais-je compter en fongué? Toi, lecteur, lis-tu en bariba? Pleurons dans ce test, car la langue est enterrée. Pourrions-nous la déterrer? Qu'en sais-je? Chanter en fongué, chanter en bariba. Je suis un traître qui a trahi sa langue. La langue est savoir. Et tu sais, au cours de ce test, de ce travail scriptural, je vais de temps en autre et quelques récits de nos langues dans le français. C'est-à-dire, tu auras constaté que je dis par exemple « nontier ». Nontier, dans la langue béninoise fongué, ça veut dire « mère ». Je dis également « nonvi », qui veut dire « frère ». Dans d'autres passages, je vais dire « mwanyi ». Mwanyi, qui veut dire « amour », en yoruba, ça veut dire « ifé », c'est-à-dire « celui qu'on aime ». Tendrement, avec douceur. Voilà. Donc, c'est ce travail-là que j'ai fait tout au long ce travail scriptural. C'est ce que j'ai fait véritablement dans l'ouvrage, où j'ai constitué, j'ai mis chaque fait de ma langue en faisant un méli-mélo avec le français.
Oui, d'ailleurs, dans un passage que j'ai lu, je dis « Je suis devenu le yovo ». Le yovo, ça veut dire le blanc. Et ça aussi, c'est un terme béninois, yovo.
Voilà. En fait, Yovo, tu l'as véritablement su, Yovo, c'est de la langue fongué. Et plus en plus, ça veut dire le blanc. Au temps de la période coloniale, lorsque le colon et ses pères venaient ici au Bénin, on dit Yovo, Yovo, c'est-à-dire le blanc, le blanc, le blanc. Donc, pour dire que à chaque fois, quand tu entendras Yovo, ça voudra bien dire le blanc. Ça ne veut pas forcément dire le français, mais le blanc, le colonisateur.
Ils sont arrivés et ils étaient blancs dans un peuple où il n'y avait que des peaux noires. Donc forcément, on les regardait en disant « le blanc, c'est normal et c'est resté ».
Voilà, en fait, c'est un thème général pour identifier l'homme de l'outre-mer, l'homme de l'Occident. Parce que ce soit qu'il soit anglais, qu'il soit français, qu'il soit espagnol, lorsqu'il vient au Bénin, tout le monde dira « Yovo ». Et il y a même cette chanson ici au Bénin où lorsqu'on voit un blanc dit « Yovo, yovo, bonsoir », tu vois. C'est-à-dire, blanc, blanc, bonsoir. C'est une chanson très populaire au Bénin où presque tous les enfants aiment manier lorsqu'on voit un blanc, et voilà.
Je ne suis jamais venu au Bénin, donc je ne peux que m'imaginer. C'est beau de nous envoyer de l'imaginaire comme ça, même si ce dont tu parles... Franchement, quand tu parles de ça, moi, en tant que blanc, en tant qu'occidental, j'ai honte, quelque part. Parce que je me dis, putain, je suis responsable, quelque part, où mes ancêtres, ils sont responsables de l'horreur. Qui s'est passé dans vos pays. Et puis toi, tu m'en parles, j'ai l'impression que bah, fatalement, tu as survécu à ça. Moi, j'ai comme une épine en moi, si tu veux, qui me dit « Ouh là là, vilain blanc, tu es raciste, tes ancêtres, ils ont colonisé. »
Tu sais, ici au Bénin, moi, j'ai toujours fréquenté des blancs. Et depuis ma toute petite enfance, d'ailleurs même, celui avec qui je marchais toujours était un blanc depuis ma toute petite enfance. Et donc, j'ai pris avoir cette sympathie, tout ce qui va avec le blanc. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes dans un pays. Et ce pays-là, c'est le monde. Et dans ce monde-là, nous sommes des frères, que ce soit noir ou blanc.
Mais carrément.
Donc, ouais. dans mon pays littéraire, qui est le monde, je vis que ce soit avec des noirs et également avec des blancs.
Mais ça ne t'empêche pas d'avoir ce retour sur... Parce que j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, pardon. Hein, on a digressé, c'est très bien. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus sur ce ressenti que tu ressens, toi, en tant qu'auteur, d'avoir à la fois une langue qui est à ton service et que tu maîtrises extrêmement bien, et d'avoir comme une rupture avec des inspirations qui, elles, viennent de toi personnellement, bien sûr, tu es un auteur avec toute la souveraineté que ça peut avoir sur soi-même, mais qui vient aussi d'une tradition qui, elle, a été flouée par la ruse.
Je vais te dire que chez moi, c'est pas quelque chose d'assez difficile. Je te fais une petite illustration. On considère que deux animaux d'espèces différentes vivent ensemble. de part et d'autre, ils grandissent ensemble. Je crois que ces animaux-là auront de marcher ensemble, d'avoir cette confiance en eux-mêmes. D'autre part, tu as également deux animaux d'espèces différentes qui, au cours de leur existence, ne sont pas restés plus proches et qui ont un passé un peu complexe. Je crois que là, dans ce cas d'espèces, c'est qu'ils vont saillir, ils vont se détester. Moi, dans mon cas, et comme partout au Bénin, nous avons connu le Yovo. Nous connaissons toute la sympathie du blanc, bien qu'étant donné que il y a ce passé douloureux qui parfois pèse sur nos consciences, nous ne tolérerons pas. Nous sommes des hommes sympas qui aimons quand même l'homme blanc. Et tu sais, l'amabilité, je vais te dire, lorsque j'étais venu en France, parfois, il y a des endroits que je connaissais pas. Je voyais des blancs, laisse-moi dire, des blancs. Je les voyais sur la rue et je disais, pardonnez-moi, je vais à la place Bellecour. L'autre me dira, passe pas ici. L'autre me dira, il faudra que tu prennes ce tramway et ainsi de suite. Ça m'a appris combien de fois l'homme que nous sommes dans ce monde, qu'est notre pays littéraire, nous avons cette sympathie-là de s'entraider. Donc, il n'y a pas cette différence, cette discrimination-là, même qu'étant donné qu'il y a ce passé complexe, ce passé douloureux qui pèse sur nos consciences, sur nos pensées.
C'est bientôt la fin de cette émission, on va rendre l'antenne. Le procès aux lettres, on peut le trouver, donc où en fait?
Le procès aux lettres est publié au Bénin, mais c'est disponible à l'espace Pandora.
Donc à Vénissieux.
Je crois que beaucoup vous connaissent l'espace Pandora, ouais, à la librairie
Thierry
de
Renard,
l'espace Pandora.
Ok, donc vous pouvez le trouver à la librairie de l'espace Pandora. L'espace Pandora, donc c'est Thierry Renard que j'avais invité fin juin également. Voilà, t'as aussi un autre livre, mais on n'en parlera pas, qui s'appelle Virgule d'amour et que vous pouvez également commander.
Exactement. D'ici 4 mois, je serai encore à Lyon. Et ça me permettra également de faire plusieurs activités poétiques sur les langues béninoises avec le public lyonnais. Pour mes auditeurs, ce serait un plaisir pour moi de se procurer Procès aux lettres à la librairie de l'espace Pandora. Et lorsque je serai à Lyon, ce serait un plaisir pour moi d'avoir assez de questions passionnantes en tant qu'auteur.
Très bien, je vous le rappellerai dans Poésie Chronique hein, quand tu viendras. En tout cas, c'est dans 4 mois. Notez-le bien, je suis sûr que ça va être passionnant. Et du coup, je te remercie infiniment, Joël de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé lire tes textes. J'y ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. Et ça m'a permis de connaître aussi cet état d'esprit. C'est ça le miracle de la langue, c'est de rendre vivant des choses à travers des mots qui sont par essence figés. Tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs ?
Baptiste, crois-moi, j'ai aimé l'émission. Et pour moi, j'ai été aussi un très grand sympathisant de tous ces passionnés de la poésie qui aiment non seulement la poésie elle-même en tant qu'art, mais également le contenu de l'ouvrage Procès aux lettres, qui pour moi est le travail d'Aziza. Aziza, ici au Bénin, c'est le travail de l'inspiration, la muse. Dans ce travail d'inspiration, ce travail de Aziza, que je dévoile au public lyonnais, j'espère vivement que le tout petit peu d'ouvrages qui restent à l'espace Pandora, que les auditeurs puissent s'en procurer et que bonjour les questions lorsque je serai à Lyon.
Très bien, ben on se retrouve à ce moment-là. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et puis je te dis à très bientôt.
À très bientôt.